Dans le cadre du projet Média Acteurs de Prévention, les élèves de seconde générale et technologique du lycée La Salésienne Don Bosco, quartier Saint-François à Saint-Étienne, vont réaliser une série d'objets radiophoniques autour des addictions. C'est avec Radio Ondaine qu'ils vont travailler toute l'année pour amener des pistes de réflexion et des informations autour de cette thématique. Pour ce lancement de projet, il est important de bien définir ce que sont les addictions, oui, au pluriel. Et pour ce faire, aujourd'hui, nous recevons Solène Delcroix et Roxane Dimier, toutes deux chargées de prévention de l'antenne noire d'Addiction France. Bonjour à toutes les deux, bienvenue.
Bonjour, merci.
Bonjour et merci.
Alors, pour débuter, de la plus simple des manières, qu'est-ce qu'Addiction France ?
Addiction France, c'est donc une association qui est reconnue d'utilité publique. Elle existe depuis donc près de 150 ans. Et en fait, ce que je trouve intéressant de souligner, c'est qu'au tout début de sa création, elle était intitulée Association nationale de prévention contre l'alcoolisme, de lutte contre l'alcoolisme. Donc en fait, ça montre une certaine évolution de cette vision sociétale et scientifique, j'ai envie de dire, autour de la problématique addictive. J'entends par là qu'après, elle a évolué en Association nationale de prévention en alcoolologie et addictologie. Et donc depuis janvier 2021, on s'intitule Addiction France, au pluriel, comme vous l'avez dit. Parce qu'en effet, il n'existe pas qu'une addiction, ce n'est pas que l'alcool.
Voilà, le cœur du sujet, c'est donc ça, l'addiction. Qu'est-ce qu'une addiction ? Quelle est sa définition la plus simple ?
Alors, l'addiction, déjà, il existe plusieurs types d'addictions. Donc déjà, il faut savoir qu'il existe les addictions avec et sans substance. Une addiction, c'est tout simplement la perte de contrôle sur sa consommation ou son comportement. L'addiction, c'est dès lors que la personne, elle perd vraiment le contrôle sur sa consommation et son seul centre d'intérêt sera sa consommation, la recherche de cette consommation. De manière très très simple, on va dire que voilà, c'est vraiment la perte de contrôle, l'usage abusif, la consommation excessive d'une substance ou d'un comportement.
Voilà, alors qu'on définisse un peu les substances, on voit très bien ce que c'est, des produits, drogue, alcool, etc., tabac. Et quand il n'y a pas de substance, ce sont des addictions à quoi par exemple ?
Oui, alors ça peut être l'addiction au sexe, tout ce qui est cybersexe, sexualité, pornographie, etc. Il y a tout ce qui est l'addiction au sport aussi, au travail, l'addiction aux jeux vidéo, aux jeux d'argent et de hasard. Voilà, c'est à peu près ça, les addictions comportementales.
Il y a aussi une autre expression qui est utilisée assez souvent dans ce milieu-là, ce sont les conduites à risque, les conduites addictives. Comment on différencie les deux, en fait ? Est-ce que c'est un cheminement ? Et comment vous arrivez à différencier vos interventions dans ces deux thématiques-là, addiction et conduites à risque, conduites addictives ?
J'ai envie de dire, du coup, pour faire du lien avec notre pratique, c'est qu'on nous interpelle suite à soit une problématique qui a pu être identifiée, donc qu'il s'agit d'une substance ou d'un comportement. Après, conduite addictive, on est plus là justement pour les prévenir de manière générale. Ça va se faire au sein de l'association de différentes manières. Donc nous, on intervient sur le versant prévention, intervenir directement auprès des jeunes pour leur expliquer peut-être les risques, les conséquences. Et dans l'association, on a aussi le versant soins. Où là, il va y avoir des médecins, des psychologues, des travailleurs sociaux qui vont pouvoir prendre en charge la personne dans sa globalité, l'accompagner dans une réduction, voire une arrêt total de ce comportement ou de cette substance.
Alors c'est l'objet défini en plusieurs axes de l'association et on peut peut-être les préciser sur différentes thématiques. Il y a tout d'abord sensibiliser et agir en promotion de la santé. Ça, ce sont ces interventions que vous allez faire face à différents publics. Sur ce volet-là, quels sont les outils peut-être que vous avez à votre disposition pour travailler ces questions et puis travailler cette notion de promotion de la santé ?
Alors, donc, du côté de la prévention, donc effectivement, on fait des sensibilisations. Donc, on voit en fonction déjà avec les partenaires la demande par rapport à une ou des addictions. Et puis ensuite, au niveau des outils, c'est vrai qu'on utilise des outils très ludiques où les jeunes peuvent justement manipuler directement les outils. Donc c'est vrai que déjà, on fait un petit peu un état des lieux, on va dire, des connaissances des jeunes, des représentations, tout ce qu'ils peuvent mettre derrière la définition, la notion des conduites addictives et de l'addiction. Et puis par la suite, nous, voilà, on a tout un tas d'outils qui permettent de faire prendre conscience aux jeunes qu'ils qu'il existe plusieurs addictions. Et puis surtout, de les faire monter en compétences. Donc c'est ce qu'on appelle les compétences psychosociales, pour en fait faire en sorte que ces jeunes deviennent vraiment acteurs dans leurs choix, dans leurs décisions de santé en fait.
Alors, on reviendra un peu sur ces interventions vers les jeunes, plus précisément. Et si l'on garde un peu les missions encore d'Addiction France, former et conseiller en milieu professionnel, là, c'est aussi d'un autre niveau. Ça veut dire quoi? C'est former des professeurs, pourquoi pas si on reste dans le milieu scolaire, ou encore des animateurs de centres sociaux, etc.
Oui, alors au niveau de la formation des acteurs, c'est ça. En fait, nous, il faut savoir qu'on est financé par l'ARS, l'Agence régionale de santé. Et pour au niveau de ces financements, donc on peut à la fois intervenir auprès des publics vulnérables, donc avant tout les jeunes de 12 à 25 ans. Et on a essentiellement des financements concernant les publics qui sont dans des filières professionnelles. Et donc, dans ce cadre-là, on peut intervenir aussi en formation pour des professionnels qui agissent et gravitent aussi tout autour de ces publics-là. Donc on peut intervenir effectivement auprès d'enseignants, auprès d'éducateurs, auprès d'animateurs. Voilà, c'est assez varié, mais en tout cas tous les professionnels qui peuvent être en lien avec des jeunes aussi en situation de vulnérabilité.
En revenant sur ce que vous disiez en début d'émission et dans la présentation globale, il y a ce volet d'accompagnement des personnes en difficulté et leur entourage. Ça se fait avec des psychologues, avec quel type d'autres professionnels et à quel endroit ça se fait?
Alors, ces lieux, on les appelle des XAPA, c'est donc des centres de soins qui vont pouvoir à la fois accueillir des publics adultes, comme l'entourage, comme vous dites, au-delà de la personne qui souhaite réduire ou arrêter sa consommation. On peut aussi accueillir des proches qui se posent des questions par rapport à la substance, par rapport au comportement et aussi comment eux, ils peuvent venir leur venir en aide. Et dans ces centres de soins, donc on retrouve des médecins, des psychologues, des travailleurs sociaux. Ils bossent tous d'une manière différente, mais ensemble, en fait. C'est tout ce qui fait la force de l'association. Et au sein de ces centres de soins, on a un dispositif qui est donc plus ciblé pour les jeunes, ce qu'on appelle des CJC, des consultations jeunes consommateurs, où là, au même titre, on va cibler juste les moins de 25 ans, essentiellement ce public-là, qui vont pouvoir venir de manière aussi libre que dans ces centres de soins, mais spécifique à ce public.
Et tout ça nous amène au quatrième volet, c'est militer pour une politique de santé cohérente sur les addictions, c'est donc la mise en réseau de tous ces professionnels-là, de tous les acteurs, donc c'est très important. Si l'on doit citer peut-être d'autres structures qui travaillent de la même manière que Addiction France et qui sont vos partenaires, ce seraient lesquelles?
Alors, on retrouve notamment le centre Rimbaud, l'association Rimbaud sur Saint-Étienne, qui, de la même manière que nous, dispose d'un centre de soins, de consultation jeunes consommateurs et également d'un CARUD. Ils sont aussi plus sur le milieu festif, contrairement à nous qui intervenons essentiellement dans les milieux scolaires et d'insertion. Voilà, c'est vrai qu'on arrive un petit peu à se répartir comme ça sur le territoire. Et puis après, il y a aussi le réseau Loire-Réad qui chapeaute un petit peu toutes les instances sur la Loire.
Alors venons précisément à vos interventions. Donc vous êtes chargé de prévention pour l'antenne Loire d'Addiction France et précisément pour les 12-25 ans. Comment se passe une intervention? Voilà, qui fait appel à vous? Est-ce que vous démarchez? Est-ce que ce sont des établissements scolaires, si l'on prend ce type d'établissements qui vous appellent? Voilà, quel est votre quotidien et comment se prépare une intervention?
Alors, la préparation d'une intervention, elle se fait sur différents volets. Donc, à la fois, on peut avoir soit une sollicitation d'une structure, d'un établissement, qu'il soit scolaire ou autre. L'idée, c'est vraiment d'intervenir dans ces structures qui accueillent des jeunes. On peut très bien intervenir auprès de structures de réinsertion, type AFPA, par exemple, ou l'école de la deuxième chance. Différents types de structures-là. Donc, après, on rencontre dans un premier temps, justement, peut-être les référents ou les formateurs, pour voir s'il y a une demande spécifique, ou si ils souhaiteraient juste peut-être de leur permettre d'appréhender la problématique addictive dans sa globalité. Et à la suite de la demande institutionnelle, on réfléchit en équipe, selon avec qui on participera, à la manière dont on appréhende les choses. Donc il y a une problématique, souvent la manière dont on intervient, c'est assez varié. Dans un premier temps, on brosse un tableau, on fait un brainstorming du mot addiction, qu'est-ce que ça signifie pour vous. Et l'idée, c'est vraiment de partir de leur représentation, peut-être de leur consommation aussi, pour pouvoir faire évoluer la suite des choses. Et après, comme on l'avait dit au tout début de l'interview, c'est qu'on va utiliser des outils. On parle pas de jeux, on parle vraiment d'outils pour leur permettre de parler, leur permettre de peut-être d'aborder des sujets qu'ils n'avaient pas forcément envisagés. Et après, peut-être dans un second temps, cibler, retravailler un peu plus en profondeur une thématique qui a été peut-être identifiée par la structure. L'idée, c'est vraiment de leur faire émerger leur représentation. Par la suite, on leur fait passer des questionnaires pour avoir un peu un retour, ce qui permet aussi à l'établissement de pouvoir situer où se positionnent les jeunes en fait par rapport à ce sujet-là. Sans forcément, c'est complètement anonyme, hein, c'est juste histoire de pouvoir avoir un retour de leurs impressions de tout ça.
Alors le sujet peut être un peu délicat, avec comportements que l'on ne veut pas dévoiler, c'est compliqué d'en parler. Comment on libère cette parole-là? Est-ce que, j'imagine qu'il y a plusieurs façons de faire, mais est-ce que c'est le groupe qui va parler? Est-ce que ce sont aussi peut-être ces cartes anonymes où chacun pourra noter et vous faites porte-parole de ce qu'a dit le groupe? Expliquez-nous en fait pour libérer cette parole-là et pour arriver à un échange constructif entre tous les intervenants.
Il faut savoir que dès le début de notre intervention, on pose un cadre avec les jeunes, en leur expliquant qu'on est vraiment là pour échanger, pour discuter, qu'il n'y aura pas du tout de stigmatisation. On pose des cadres aussi, au même titre que quand ils sont en cours, de respect des autres, de confidentialité, de non-jugement. L'idée, c'est de pouvoir échanger avec eux, peut-être sur leurs questions, sur leurs questionnements par rapport à ça. Mais dès le début, en tout cas, on pose un cadre pour qu'ils puissent être rassurés, si je peux dire. Et c'est aussi par l'intermédiaire de ces différents outils qui n'abordent pas peut-être directement la problématique. On passe par différents chemins, différents biais pour aborder le sujet.
Et de même, on essaye aussi de travailler en petits effectifs, c'est-à-dire que souvent, on divise la classe en demi-groupes ou le groupe, on ne va pas au-delà de 15 personnes pour que vraiment tout le monde puisse s'exprimer librement, prendre la parole quand il le souhaite.
Alors, bien qu'il n'y ait aucun jugement, il y a quand même des constatations. Aujourd'hui, si l'on parle d'addiction chez les jeunes 12-25 ans, quelles sont celles qui seront dominantes, entre guillemets, s'il y en a et puis après, effectivement, comment les expliquer, comment vous récoltez ces informations et qu'est-ce que vous en faites?
J'ai envie de dire, tout dépend. Tout dépend. Entre les 12-25 ans, il y a beaucoup de tranches d'âge différentes, beaucoup aussi de catégories, de milieux de vie assez spécifiques. D'un territoire à l'autre, on peut faire face à des difficultés différentes. Donc, il n'y a pas forcément d'une addiction plus conséquente. Ça dépend vraiment des publics et de leur milieu de vie.
Alors, si on doit citer peut-être des choses émergentes, qu'est-ce que vous avez constaté durant ces derniers mois, s'il existe peut-être des formes addictives qui reviennent régulièrement plus que d'autres?
Alors, c'est vrai que autant l'an dernier, on était quand même pas mal sollicité sur les jeux, tout ce qui était jeux vidéo, réseaux sociaux. Là, cette année, on a pas mal de demandes sur la question des tabacs avec l'arrivée des puffs. Je pense que là, ça arrive sur la toile, ces espèces de cigarettes électroniques jetables. Donc c'est vrai que même les jeunes eux-mêmes nous en parlent en début de séance. Quand on aborde la question du tabac, maintenant ça revient beaucoup et très très tôt d'ailleurs, puisque maintenant il y a pas mal de collégiens qui consomment ces puffs-là.
Oui, disons, ce qu'on voit, c'est notamment le mode d'entrée dans les consommations diffère. C'est-à-dire qu'au début, les jeunes peut-être commençaient par la cigarette industrielle du bureau de tabac et que maintenant, l'entrée dans la problématique addictive se fait vraiment sous un autre versant, par ces intermédiaires-là, peut-être les puffs, les cigarettes électroniques. On a aussi peut-être les chichas qui peuvent permettre justement de rentrer après derrière, dans une consommation encore plus problématique pour eux, je veux dire.
Alors, une fois qu'on intervient sur une date donnée, ces problèmes d'addiction perdurent, continuent. Est-ce que vous prévoyez des calendriers de retour dans les établissements? Et si tel n'est pas le cas, est-ce que vous laissez aussi à disposition des établissements des documentations et des outils que les équipes pédagogiques peuvent avoir à leur disposition et même les élèves?
Alors nous, on intervient vraiment de différentes manières. C'est soit on peut être sollicité sur un créneau, par exemple, de 2 heures à telle date, ou soit on peut intervenir de manière un peu plus rapprochée, peut-être une fois par mois, ou intervenir 4 à 5, ou voire 6 fois sur l'année scolaire. L'idée, c'est de pouvoir appréhender justement le sujet sur la durée, sur le suivi. Et du coup, à la fin de nos interventions, oui, en effet, on leur laisse des prospectus, des flyers. On essaye aussi de diffuser un maximum d'affiches auprès des professionnels, qu'il s'agisse de santé ou de milieu de l'éducation, pour qu'ils puissent avoir une trame, peut-être venir aussi vers nous derrière s'ils se posent des questions, ou peut-être qu'ils n'avaient pas osé en étant entourés par les autres. Donc on leur laisse en tout cas de quoi être attachés au sujet et peut-être revenir vers nous facilement.
C'est vrai qu'on a aussi des, voilà, donc comme le disait Solène, on a des, à la fois des interventions un petit peu ponctuelles ou alors qui peuvent être en plusieurs séances, mais on fait aussi ce qu'on appelle des groupes motivationnels à l'arrêt, par exemple, du tabac ou de l'alcool ou autre, où là, vraiment, c'est sur des projets bien définis, des projets prometteurs et probants, de type, voilà, tabado, où là, vraiment, on va revenir sur l'établissement 4-5 fois, où on peut faire intervenir aussi dans ce cadre des professionnels type infirmière, tabacologue ou autre directement dans l'établissement pour que les jeunes en bénéficient en fait au sein de l'établissement.
Alors si l'on parle un peu de ces différents métiers, vu que ces jeunes-là en seconde générale et technologique vont aussi faire un choix dans leur orientation et leurs prochaines années à venir, première et terminale jusqu'au bac, quels sont ces métiers représentés au sein de d'Addiction France? Quels sont tous les dénominatifs que vous pouvez avoir chargés de prévention? Voilà, quelles études avez-vous fait pour faire ça, vu qu'on s'adresse ici à des lycéens?
Moi, du coup, après un bac sanitaire et social, j'ai fait une licence infirmière, un master 1 en sciences de l'éducation pour la santé et un master 2 de santé publique.
Et de mon côté, donc, j'ai fait un bac économique et social. Après, j'ai fait un BTS économie sociale et familiale. Et après, j'ai poursuivi vers la licence et le master éducation santé prévention.
Alors ça amènera des pistes de discussion d'ici quelques secondes et on arrive en fait au terme de cette rencontre autour d'Addiction France. Au-delà de vos interventions, Addiction France, c'est où à Saint-Étienne?
Alors nous, on est situé au 15 rue Henri Matisse, mais nous, c'est juste l'aspect prévention. Vraiment, les chargés de prévention se situent au rue Henri Matisse. Notre centre de soins de rattachement se situe sur Rive-de-Gier, mais très prochainement, là, en décembre, nous allons déménager dans une maison de santé qui est en train de se construire sur Rive-de-Gier également.
Quels sont les lieux, ressources, sites internet où on trouve toutes les informations autour des addictions et de votre structure?
Un site internet, le site national d'Addiction France, qui regroupe un peu toutes les interventions qui peuvent se passer sur les différents territoires. Et puis, comme l'avait dit Roxane, aussi le réseau Loiréade, qui est un réseau qui chapeaute, qui regroupe plein de structures d'acteurs différents et qui permet, ils ont une super outil graphie et bibliographie qui permet justement de situer en fonction de nos besoins, en fonction de nos recherches. Sur le site internet, en tout cas, tout est accessible.
Alors, au moment où l'on réalise cette émission de radio, c'est cette Coupe du Monde qui se déroule avec une action sur votre site internet, notamment prévenir une double addiction. Hein, c'est les jeux d'argent et les publicités pour l'alcool qui apparaissent dans ces clips promotionnels de jeux d'argent. C'est quelque chose sur lequel vous travaillez, vous insistez en ce moment?
Alors le sujet des jeux d'argent, on en parle essentiellement lorsqu'on fait un brainstorming au tout début sur justement qu'est-ce qu'on met derrière le mot addiction. Après, on n'a pas de demande à part entière sur on a rencontré telle problématique auprès de nos jeunes, en tout cas côté de la prévention. Mais par contre, dans tout ce qui est les centres de soins, notamment dans l'accompagnement, nos collègues à la fois CESF ou psychologues sont amenés à accompagner des gens face à cette problématique-là.